des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille au téléphone, oui ça commence bien au microphone, mais on va le laisser comme ça, moi j'adore ça, ces petits lapsus là, on en parlait justement avec mon invité, qu'on n'est pas parfait, c'est peut-être pour ça que j'ai commis cette première bourde. Alors Clotilde Seille au micro bien sûr de Canal M, pour vous présenter une nouvelle fois l'émission des livres plein les oreilles consacrée aux livres audio. Je reçois une femme très en demande par les temps qui courent, c'est une vraie révolution dans le monde de la danse de voir à TVA ces jeunes athlètes nous éblouir littéralement, nous faire tourner la tête. Je dis des athlètes, ça va peut-être pas lui plaire, on en parlera un petit peu plus tard. Aux côtés de Jean-Marc Généreux, l'incontournable, Lydia Bouchard a su prendre sa place et Lydia a écrit un bouquin, un livre que j'ai dévoré. Mais réellement, et non seulement elle l'a écrit, mais elle l'a lu dans les studios de Vues et Voix. C'est maintenant à notre catalogue et nous en sommes bien fiers. Ça s'appelle « S'envoler presque », c'est à ne pas manquer. Également à l'émission, on va faire connaissance avec un autre joueur dans la production et la distribution de livres audio. C'est Actes Sud Audio dont je vais présenter peut-être un bouquin, sinon deux. Notamment « Salina », lu par Guillaume Gallienne, qui est ce champion de la lecture à haute voix en France, qui est un comédien, qui est d'ailleurs en nomination au prix France Culture « Lire dans le noir ». En seconde partie de l'émission, Faline Bobier de Caeb poursuit sa mission d'enregistrer des livres en pensant en premier lieu aux personnes malvoyantes et elle va nous faire quelques propositions de livres audio qui sont maintenant disponibles via notamment le catalogue du SQLA et via, bien évidemment, le Caeb. On va commencer en chanson. Je me suis souvenu de cette chanson-là, qui est au départ une chanson de Claude Nougaro, mais qui a été reprise il y a quelques années avant que malheureusement elle ne nous quitte trop tôt. Morane chante la danse.
Petit chat, petit rat, avec nos frêles os, nous allions à l'école de danse. À la barre de chêne se courbaient les roseaux de nos corps amoureux de cadence. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Nous allions à l'école de danse. Face à la grande classe, petit canard pâteau, nous vivions pour le bonheur insigne de voir nos blancs tutus reflétés par les eaux du lac noir où meurt la mort du cygne. La danse est une étoile, qu'elle est loin, qu'elle est haut, sur les pointes on lui faisait des signes. Dans un coin du studio, le piano qu'on volait hardiment vers des prouesses russes et le plancher des vaches de son mieux décollé sous nos pieds ivres de sauts de puce. La danse est une bête, la sueur et son lait, le désir sa coutume et ses sus. Alors chacun les bras en cœur, corps à couteau tiré, se tendait vers la ligne suprême, vers les extrémités d'un ciel, d'un soleil délivré de la nuit et de ses théorèmes. La danse est un espace où les ronds sont carrés, où le temps au miracle nous est. Sur des rythmes d'astères, des tambours brésiliens, elle danse, la danse, elle danse. Pas par pas, bon par bon, elle brise les liens de nos poids et pris de transcendance. Paysanne et la danse, le cosmos et son grain, en sabots de satin, le ballon. Thank you. Petit chat, petit rat, avec nos frêles os, nous allions à l'école de danse. À la barre de chêne se courbaient les roseaux de nos corps amoureux de cadence. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Nous allions à l'école de danse.
C'est incroyable, hein? La danse est une cage. Et la symbolique de l'oiseau, tout ce qu'on retrouve dans votre livre. Lydia Bouchard, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Vous, dans le livre, s'appelle Presque s'envoler.
S'envoler presque.
S'envoler presque, pardon.
Oui, parce qu'est-ce qu'on
parce
y
que
arrive
encore
un
plus
jour
beau.
De, oui. À l'oiseau, oui. Peut-être jamais.
D'ailleurs, l'oiseau, à un moment donné, il y a votre amoureux, enfin, je veux dire l'amoureux de Lou, là-dedans, à un moment donné, d'ailleurs, qui dit à Lou, c'est pas ton métier, ça, oiseau?
Oui, tout à fait.
Alors, Lydia... Je vais vous faire une confidence, je n'ai pas vu, tout le monde en parle, je n'ai rien, je n'ai pas lu aucune entrevue de vous, je n'ai lu aucun commentaire, je n'ai lu que votre livre et je l'ai écouté. Parce que je voulais être complètement pure, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je peux vous dire que non seulement j'ai découvert une plume, mais j'ai découvert une voix, parce que... autant l'écriture, puis là je vois Mathieu derrière qui dit oui, parce qu'il travaille aussi du côté des studios de chez Vues et Voix. Votre lecture, Lydia, et là je me suis dit, mais attends, la danse, l'écriture, la lecture, est-ce que vous peignez? C'est ma première question, Lydia Bouchard.
J'aime peindre beaucoup.
Alors
j'aime
j'achète,
dessiner.
J'achète tout de suite parce que ça doit être très beau, forcément.
J'ai un amour. Je suis affamée d'art. Je crois que c'est vraiment ma très grande curiosité qui fait que je me permets en fait presque avec du front de toucher à tout.
Ah oui non c'est ça parce qu'on se dit mais quel drôle de entre guillemets c'est pas péjoratif bibite quoi parce
oui.
que c'est vrai que vous touchez à tout. Et vous le faites, je pense, avec une candeur, mais honnêtement, pour moi, c'est un choc littéraire aussi. Je ne m'attendais pas à autant de lyrisme, je ne m'attendais pas à autant de... dans l'écriture, même syntaxique, tout ça, c'est super. Ça a été long. Est-ce que vous avez été du genre à vous arrêter sur chaque phrase, à faire en sorte qu'elle soit parfaite comme un...
Oui
comme un
non.
pas de danse.
Oui et non, je suis méticuleuse, j'ai oui. relu, j'ai coupé, oui bien sûr, mais j'ai voulu aussi que ce soit un geste, je ne vais pas dire naïf, mais presque.
Ouais.
Ça a été très long, ça s'est fait sur 6 ans, sur le coin de la loge, pendant que les enfants dormaient. ça a été mon petit coin à moi. Je me suis permis d'être imparfaite parce que sinon, j'aurais été paralysée par l'amour que j'ai pour tous les auteurs qui le font de si magnifique façon.
Oh, que je suis contente que vous n'ayez point été paralysée, Lydia. Mais vraiment, j'insiste peut-être un petit peu trop. On pourrait penser que je caresse trop dans le sens du poil, mais ce n'est pas vrai. Sérieusement, Lydia, je ne sais pas si c'est fait exprès, ça a donné comme ça. J'ai trouvé que ce livre était conçu comme un ballet. Je m'explique. Il y a la soliste, et puis il y a la troupe à côté, tous ceux qui l'entourent. Et puis, ben, il y a évidemment tous les... Il y a même un pas de deux aussi, à un moment donné. Donc, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est moi qui invente et qui poétise tout ça?
Ben, c'est bien poétisé, c'est joli. Il faut poétiser, sinon à quoi bon? Mais je l'ai fait... J'ai bien réfléchi le jeu. C'est particulier d'écrire au jeu parce que ça coupe de la perspective de tous les personnages, ce qui créativement ferme des portes à la base. Mais ce qui, moi, m'ouvrait vraiment la possibilité d'en faire un solo, d'en faire quelque chose vu de l'intérieur et aussi d'en faire une expérience où je peux partager peut-être les émotions de ce que ça fait danser de l'intérieur à quelqu'un qui peut-être n'a jamais dansé, ne dansera jamais.
Et c'est tellement ça.
C'était ça l'optique.
Et c'est tellement ça. On va parler un petit peu de votre écriture, j'en parlais tantôt. Par exemple, une phrase hein, pour ceux qui nous entendent, qui n'auraient jamais encore découvert ce livre-là de Lydia Bouchard. Oui, tout d'un coup, j'ai eu une espèce de... Je ne sais pas. Vous savez, parfois, 62 ans, oh, ma petite fille, si vous saviez. En tout cas, une phrase qui dit « La vie normale d'un non-dansant est pour moi un sommeil épais dont je m'arrache le soir venu. » C'est génial comme phrase. Mais c'est vrai, ça? Oui. C'est vraiment la vie d'un nom dansant qui vit une espèce de régularité, de banalité, et qui tout d'un coup, hop, on met les pointes et on devient quelqu'un d'autre.
Puis je pense qu'il y a une espèce de solidarité entre danseurs, une espèce de non-dit où on a peut-être touché, goûté à la même expérience kinesthésique, à ce que ça fait. Ouais. Et on a peut-être une impression que personne d'autre peut comprendre qu'un danseur.
Ouais, c'est
que
vrai.
Qu'on se retrouve là. Il y a un côté, tu sais, des fois, on fait à la blague, il y a les danseurs et il y a les piétons. C'est deux bébites différentes, comme vous dites, si bien que là,
oui, oui, c'est vrai. Et quand vous dites que vous nous amenez dans la peau, même, je dirais, dans la musculature du danseur. Parce que lorsque, par exemple, vous dansez avec le personnage d'Oleg, bon, qui est un merveilleux danseur, mais un personnage un petit peu fantasque, sur qui on ne peut pas se fier. D'ailleurs, ça va jouer un sérieux tour à votre héroïne. Quand vous dansez ensemble, toutes les sensations que vous avez, ah, c'est prodigieux. C'est... On a vraiment l'impression qu'on danse avec Oleg.
Oui, mais tant mieux. Parce que c'est tellement un autre moment de danser en partenariat ou de danser en solo. On est en contrôle absolu. Et les danseurs, en général, ont choisi ce métier-là pour tellement aimer le contrôle, d'essayer de contrôler jusqu'à son corps, jusque dans les petits replis. Donc, de donner ce contrôle-là à quelqu'un d'autre, c'est un geste qui n'est pas anodin, je pense.
Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là? C'est pourquoi on fait ce métier-là? Parce qu'il y a autant de sacrifices.
Oh, par
amour.
Peut expliquer tomber en amour, Claudine?
Oui, mais en tombe en amour, on ne s'écorche pas les pieds. Je veux dire, il y a quand même une souffrance qui est reliée à ce métier-là aussi.
Oui, mais il y a un très grand sentiment. C'est sûr, il y a un payoff, si on veut. On reçoit quelque chose de ça de très fort pour continuer à le faire. Dans n'importe quel geste, il y a ça. On y retourne, je pense, parce que... le moment où tout est parfait, tout est en contrôle, est si fort que ça devient comme une drogue. Cette douleur-là, en fait, on l'apprivoise et ça devient un peu comme un grand sentiment de réussite, de force mentale aussi, de s'apprivoiser son corps, de l'habiter, d'accepter cette douleur-là comme n'étant pas tout le temps négative. Tu sais, je pense pas qu'on ait des espèces de souffre-douleurs.
Non, c'est pas ce que je voulais dire
qu'on
non
adore,
plus. Mais...
Qu'on adore la douleur
non,
à
non,
ce
non,
point.
C'est clair.
C'est pas dans cette optique-là qu'on danse,
non,
je pense.
Non, non.
Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices, mais ces sacrifices-là sont faits pour ce grand amour-là.
Ouais. Je parlais de votre lecture. Je vous propose qu'on fasse une toute petite pause, le temps de vous entendre lire un extrait de « S'envoler, virgule, presque ».
L'horloge est lourde. Lourde comme si chacune de ses aiguilles était de marbre. Un marbre épais, martelant le métal. Dans la classe, l'enseignant, dont je ne connais ni le nom ni le sourire, se débat devant une audience aussi hermétique que blasée. À 17 ans, on pense qu'on sait tout. À 17 ans, c'est tout ce qu'on sait. La vie n'est qu'ombre chinoise. On ne sait pas encore ce qui vit derrière les panneaux de papier de riz. Pas d'envers de médaille, les diables n'ont pas d'avocat. 17 ans, pas de puce à l'oreille et la certitude de saisir la totalité de l'univers, de le tenir dans sa main. La pièce se vide, comme si elle avait un drain, et y faisait couler tous les corps liquides de mes comparses de classe. 16h15, tout s'accélère, plus rien ne compte que de sortir. Mon changement de costume est déjà orchestré. Pendant la pause de ce dernier cours, j'ai enfilé collants et guêtres sous mon large pantalon d'armée. Le reste dégringole. Les casiers, les au revoir polis et pressés, la course folle pour m'extirper de l'école. La voiture de ma mère qui m'attend devant. 16h25. Mon dîner avalé sur la route, les longues épingles sur mes genoux pour remonter mes cheveux, mes mains qui s'affairent adroitement derrière ma tête, comme si elles avaient des yeux d'avoir fait tant de chignons.
Oh, et toutes les phrases, hein, on se le disait avec Mathieu, sont comme ça. Des images, des images, des images. Et parler avec des images comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein. On vous l'a dit déjà souvent, j'espère.
Pas aussi bien, peut-être. Je suis très touchée que vous
c'est
ayez
vrai?
Aimé ça.
Oui,
puis je pense que Je pense que toute ma vie, peu importe le médium, a été faite d'images, de lignes, de sensations, ouais. Que ce soit en danse ou en mise en scène, c'est la même chose.
Bien sûr.
Je crée des lignes, des images, des moments,
ouais.
Puis j'ose espérer que j'ai réussi à le faire dans le
livre. Oui, oui, les fées se sont penchées sur votre berceau, Lydia Bouchard. il y a, par exemple, on parlait tantôt, quand je m'excuse, c'est un petit peu décousu, mais c'est parce que toutes mes notes le sont et c'est pas grave. J'ai retrouvé la phrase que je cherchais lorsque vous êtes en tant que ballerine entre les mains d'un danseur. Page 25, vous écrivez « Je suis la quille du jongleur ». Waouh ! Bon, ça, c'est le côté le psy.
C'est l'abandon.
C'est ça.
C'est l'abandon total.
C'est ça. Alors, parlons-en d'abandon, parce que lui, dans ce livre-là, abandonne Lou. On va parler un petit peu de l'histoire. Est-ce que vous êtes
oui,
d'accord
bien
avec
sûr.
Moi? Et surtout de tous les personnages aussi qui gravitent autour d'elle. Il y a ce personnage merveilleux de Louis.
Oui.
Dont je voudrais que vous nous parliez un peu.
Louis, il a existé pour moi, mais dans un mutisme absolu. C'est un des personnages que je puise vraiment dans le temps avant quand le Wilder n'était pas l'édifice Wilder des Grands Ballets canadiens, avant quand c'était un très vieil édifice qui tombait en lambeaux. et Louis qui m'ouvrait la porte tous les soirs. Je lui ai imaginé toute une histoire. Après, je lui ai fabriqué une vie. Ça s'est vraiment nourri dans mon imaginaire. J'aurais aimé peut-être qu'il ait... Je ne sais pas. Quel était-il... Qu'est-ce que c'était Louis, au fait? Qu'est-ce qui est arrivé de lui? Je sais pas.
Alors, il y a ces Russes, les Russes qui faisaient partie de votre premier titre, parce qu'il faut dire que ce livre-là, c'est une rémission, c'est une renaissance, et tant mieux.
Il s'est appelé Les Russes après l'école.
Voilà. Alors, il y a Irène.
Oui, Irina.
Irina
Fedorov, qui est le professeur, une des professeurs de Lou, qui est très romantique, puis qui a quelque chose de très, très lumineux dans la beauté de la poésie russe. Là.
Ouais, absolument.
Le côté un peu gypsy aussi
absolument,
qui vient avec.
Absolument. Oui. Il y a Marion.
Oui.
Quel personnage, Marion, qui vit, qui va de déception en déception.
Oui, Marion qui la dure, je pense qu'elle représente... Puis c'est pas souvent un manque de talent, c'est la bonne place au bon moment.
Oui, et à un moment donné, elle va la trouver cette place-là, mais j'en dirai pas plus parce que je veux que les gens lisent le livre, alors on n'en dira pas plus. Oleg, dont on parlait, qui est un danseur fantastique, mais bon, qui boit bien son coup, qui fume pas mal, c'est bien comme ça que vous l'avez imaginé.
C'est comme ça que je l'ai imaginé, puis c'est sûr que j'ai puisé dans... C'est un hybride entre toutes sortes de partenaires que j'ai eus. Et puis, il a pris sa propre vie, Oleg. Il est devenu quelque chose d'autre, complètement, dans l'histoire.
Ouais.
Je n'ai jamais été abandonnée comme
Non, j'imagine.
Mais j'ai poussé un peu la réflexion jusque-là. Je trouve que c'est un beau personnage parce qu'à la limite, il y a vraiment une relation amour-haine dans tout ça, entre Lou et lui, où elle doit lui donner toute sa confiance. Elle est fascinée par lui, mais en même temps, en effet, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter.
On peut compter. Et puis, il y a Romain. Alors ça, c'est l'histoire d'amour, mais elle est très belle, cette histoire d'amour.
Elle est parallèle.
Elle est très ténue. elle est parallèle, c'est ça. C'est comme un monde parallèle. Et il y a également... quel est l'autre personnage aussi que j'avais noté Bon, alors évidemment, il y a cette parenthèse en Arabie Saoudite. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'une amie à vous a vécu. Hein, et vous êtes...
j'ai trouvé ça fascinant. J'étais en train d'écrire le livre. Tout était encore à faire. Et Nicole Lamontagne, qui est une danseuse, qui a eu une très belle carrière ici au Québec, elle a dansé entre autres pour les ballets jazz.
Okay.
Et c'est elle qui a été ma dépisteur au Cirque du Soleil.
Ah oui?
Oui. Une femme formidable, en fait, qui m'a raconté une fois autour d'un thé qu'elle était allée prendre un peu une pause de la danse. Hein, et ça nous amène dans toutes sortes de revers, des fois, de danser. Elle était allée enseigner à la petite fille d'une princesse en Arabie Saoudite. Et ça, c'était dans les années 80, c'était un autre moment. Elle m'a prêté son journal intime.
Ouais.
Elle m'a laissé fouiner là-dedans. Et moi, je suis vraiment curieuse. Alors, j'ai eu un très grand bonheur à aller lire, fouiner, j'ai posé 1000 questions. Après, j'ai inventé une histoire autour de ça. T'sais, j'ai inventé, mais c'est ce qui serait le plus biographique dans le roman. En fait.
OK. Alors oui, parce qu'on va juste dire que Lou vit une grande déception en danse. Il y en a beaucoup.
Oui.
Des humiliations aussi, il y en a beaucoup. Donc là, c'est suite à une déception qu'elle a envie tout d'un coup.
Elle fout tout là.
Voilà, elle fout tout en l'air et puis allez hop là. Et puis d'ailleurs, je me faisais aussi le rapport entre cette princesse riche à millions qui ne fout rien versus la
mais
danseuse.
Mais qui a une vie complètement déconnectée.
Complètement
oui, c'est
déconnectée.
Ça. Les deux sont déconnectées.
Voilà, c'est ça. Mais il y en a l'une qui, par contre, a une mission, mais alors l'autre, elle n'a aucune mission quoi, dans la vie, si ce n'est de dépenser du fric.
Et puis, oui, puis je trouve fascinant aussi l'expérience qu'on fait de la vie, puis comment l'expérience de quelqu'un à l'autre bout de la planète qui est née dans quelque chose d'autre va vivre sa vie complètement différemment.
Et alors, quand elle revient, ça, c'est tellement joli. Évidemment, je ne vais pas le retrouver. Vous avez une très jolie phrase où on dit, lorsqu'elle revient... Ah, voilà. Si je suis arrivée en Arabie Saoudite, comme on entre au couvent, je suis arrivée à Paris comme on défroque. C'est génial comme phrase. Non, mais c'est rythmé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en même temps, l'image est vraiment très jolie. Parfois, la vie pointe à gauche quand on courait à droite.
Oui.
C'est ce qui vous est arrivé souvent, Lydia Bouchard, dans votre vie?
Oui, j'ai été surprise plein de fois. J'ose espérer que je le serai encore 1000 fois. Je pense qu'il faut savoir regarder un peu où la vie pointe au lieu de se borner des fois.
Oui, oui, oui.
Il faut savoir accueillir ça, mais oui, tout à fait.
Il y a un moment donné, vous donnez à Lou s'invente un nouveau nom.
Oui.
Et ça me semble vraiment important parce que je me suis dit, elle doit avoir des amis, Lydia Bouchard. Je me suis dit, je vais lui demander, est-ce que c'est un conseil que vous donneriez à des gens que vous aimez à un moment donné, à ceux qui se sentent un petit peu fragiles, un peu faibles, donne-toi donc un autre nom. Comme ça, tu vas peut-être avoir une peau qui va moins subir de coups. Parce que
c'est
l'impression, la vie est presque trop facile pour Romane Duclos.
Oui, elle s'invente un alter ego qui a plus de courage qu'elle-même, peut-être, à certains égards. J'ai eu cette pensée-là, moi, peut-être, dans des moments où, en tournée, où on change de compagnie, on change de ville, puis on se dit « Ah, je pourrais tout réinventer ». C'est drôle, hein? C'est fabulé, là. C'est
mais oui, côté, bien sûr.
Il y a énormément d'imagination. Mais je me rappelle, c'est drôle que vous disiez ça, être en studio avec M. Cellier qui m'enseigne, être incapable de faire un truc techniquement, être terrorisée et tout d'un coup, m'imaginer être une autre danseuse, m'imaginer être... Je vais le faire à la façon de, puis je vais l'imiter. Puis en imitant cette autre danseuse-là que j'admirais, arriver à faire un truc technique que moi, j'aurais été dans mon propre chemin mentalement. J'aurais jamais été capable d'y aller mentalement, d'avoir les couilles de le faire. Et là, en lâchant et en le faisant un peu à la façon de quelqu'un d'autre.
En tout cas, moi, je vais le retenir.
Ben oui, pourquoi pas.
Quand Clotilde Say va sentir un petit peu faiblarde, là, parce que, bon, évidemment...
Qu'est-ce que Romane Duclos aurait fait?
C'est ça. Qu'est-ce que Romane Duclos aurait fait à ce moment-là? Parce que j'ai trouvé ça brillant. Il y a aussi des scènes qu'on pourrait retrouver, je trouve, dans un genre, un film américain. Moi, je pense à cette scène que j'ai adorée. Je me suis dit, est-ce que c'est possible que ça arrive? Est-ce que c'est arrivé? La scène où vous ratez à cause d'Oleg, ben, je vais dire vous. À chaque fois, je dis vous parce que, bon, j'identifie la danseuse au personnage de Lou. Lou rate une audition très importante parce qu'à un moment donné, elle fait une véritable tournée d'auditions,
j'imagine.
Elle
était au concours de Varnage.
Voilà, c'est ça. Et Oleg ne se présente pas. Alors, on lui dit, regarde, tu ne peux pas faire ça toute seule. Et au moment où c'est fini, l'audition est finie, les juges sont en train de remettre leur manteau, c'est quasiment ça, et elle rentre sur scène et elle danse.
Elle danse quand même.
Elle danse quand même.
Le gars de son.
Et elle danse quand même. Et moi, là, je ne sais pas, j'ai revu Funny Girl, j'ai revu toutes sortes de films comme ça. Mais vous pensez, est-ce que c'est un peu un fantasme, ça, pour une danseuse de dire, j'ai pas pu me faire voir. OK, eh bien, je vais me montrer quand même ce que je sais faire.
Je pense qu'il y a eu des choses, puis je pense qu'il y a eu des gestes comme ça où on se dit, on n'a rien à perdre
que
de danser.
Ouais.
Il faut danser.
Ouais.
Tant pis.
Ouais,
tant pis,
et
d'avoir
c'est ce
travaillé
que je sais faire
tout
le mieux.
Ça. Oui, puis des fois, je me rappelle, moi, avoir été jetée dans une audition, puis m'être présentée à la ville suivante avec un meilleur numéro pour être plus en avant. Il faut avoir un peu du culot.
Aussi,
puis
ouais,
se dire, ben, s'ils ne m'ont pas vu une fois, ben, ils vont dire, pourquoi elle est encore là, cette fille? Puis là, tout d'un coup, ça déclic quelque chose. Ben oui, pourquoi pas.
Alors, votre vie, Lydia Bouchard, c'est le Cirque du Soleil, mais c'est aussi cette émission Révolution qui donne la place à ces jeunes danseurs, danseurs contemporains, que moi, tantôt, j'ai appelés des athlètes. Je ne sais pas si ça vous dérange, mais c'est parce que
Mais ils le sont.
Ils le sont.
Mais ce sont des artistes avant
des artistes athlètes,
oui. Définitivement. Oui, je pense que ces deux mots-là peuvent être juxtaposés pour les danseurs, parce que, bon, plus le côté athlète est développé, plus on a de pinceaux, de moyens pour faire de nouvelles couleurs.
Est-ce qu'il est plus important d'être fort physiquement que mentalement pour un danseur,
quel qu'il soit, les deux. Je pense pas que l'un ou l'autre
C'est pas possible. Hein. On peut pas fonctionner. On peut pas être juste fort physiquement. Il faut que,
Oui, tout à fait. Ouais. Il faut être. D'abord, je pense qu'il faut être un artiste. Ouais. Des fois, il y en a un qui naît avant l'autre.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut se connaître et faire cet exercice-là. Ouais. Ça demande vraiment. Une très grande générosité de mettre ses tripes sur la table tous les jours pour danser parce que ça t'implique humainement, profondément. Si tu ne peux pas arriver, puis, arriver au travail et puis donner la moitié de toi-même, jamais.
Lydia Bouchard, vous faites dire à Lou, votre héroïne, à un moment donné, que de toute façon, il n'y a que sur scène qu'elle respire, qu'elle vit. Vous-même, en ce moment, vous êtes plutôt en tant que juge qu'en tant que... Est-ce qu'il y a des fois où vous avez envie de monter sur la scène?
Sur celle de Révolution, je pense que j'aurais été terrorisée, mais de danser, ça me manque tous les jours.
Et vous dansez plus du tout?
Pour l'instant, non. J'ai du mal à trouver du temps d'entraînement, mais c'est planifié pour l'année qui vient. Je vais remonter sur scène, je suis pas blessée. Je veux juste le faire bien et dans une nouvelle optique. Je ne veux pas sauver mes vieux meubles avec des choses dans mes habitudes. J'aimerais redanser plus loin que je l'avais fait, je pense.
Et puis, je voudrais que vous réécriviez aussi.
Oh, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Je pense que j'aurais d'autres histoires à vous raconter.
Oui, et puis, vous reviendrez le lire parce que, comme je le disais au début, très belle écriture. Vous êtes une belle personne, Lydia Bouchard.
Merci,
je pense que vous êtes une des plus belles personnes qui m'ait été donnée de rencontrer et de lire.
Merci.
Vous êtes pétillante comme vos yeux et bravo d'être là. C'est important d'avoir des gens comme vous, je pense, dans notre société. Et puis, ben, bravo pour tout ce que vous avez fait et bravo pour ce livre S'envoler, presque. Lisez-le, écoutez-le. Il est dense, mais il est petit.
Oui.
C'est pas gros, mais c'est un petit bijou. Merci infiniment, Lydia Bouchard.
Merci pour la belle invitation.
Des livres plein les oreilles, seconde partie. À nouveau, Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter des livres plein les oreilles. Alors, on va retrouver en cette deuxième partie Faline Beaubier. Et puis, Faline qui est du CAEB, bien sûr. Et puis, j'ai des petites nouvelles pour vous. Je vais vous parler dans le monde du livre audio, notamment de ce prix remis à Michelle Obama en tant qu'autrice et lectrice. Et puis, je vais vous parler d'une nomination qui concerne Actes Sud Audio. Ça, c'est une autre maison de production et de distribution de livres audio que je vous présente aujourd'hui. Et notamment un livre, ce livre de Laurent Godet, lu par nul autre que Guillaume Gallienne, qui est considéré en France comme le maître de la lecture à haute voix. Alors ça, tout ça, c'est dans la seconde partie de cette émission. Je vous le redis encore une fois, mon Dieu, j'ai vraiment la tête encore enrhumée, moi, complètement. Mais on commence en musique.
J'étais sur mon chemin pour aller jouer dans le métro. Je me dis c'est une bonne journée pour payer le bill d'hydro. J'suis comme en retard sur le loyer. Puis ben, y'a pas grand chose dans le garde-manger. Le monsieur, l'agent, l'air un peu frais. Il me dit t'as-tu ton permis, ça c'est à tes frais. J'ai dit ben non, devine pourquoi je suis là. Il me dit ça prend de l'argent, sinon tu t'en vas. T'es un peu trop pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai dit oh ouais.
moi, si c'est comme ça. M'en va faire le tour du Guatemala. Un petit voyage, ça me fera pas tort. Ça t'ouvre les esprits, ça te calme les efforts. J'arrive là-bas, je demande un coup de main. Y'a-tu moyen de travailler pour un peu de pain? Ils me disent, oh ouais, gringo, c'est toi qui es riche. Dans ton pays, tu sais que c'est pas mal plus chic. T'es pas assez pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. D'un matin d'aller porter des CV. M'a parlé au gérant, ça sera pas compliqué. Un gars comme moi, ils vont bien m'engager. J'ai été bénévole et puis j'ai voyagé. Le bonhomme se pointe, il a l'air sévère. Il me scrute la tête aux pieds et qu'un air bête. Il me dit, ouais, t'as pas vraiment d'expérience. Moi, je me cherche quelqu'un qui a déjà eu sa chance. T'as pas assez travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai dit, je vais tenter ma chance à l'université. Après tout, dans ma société, c'est bien accepté. M'en faire un bac, sortir avec une carrière. Tant que c'est pas trop plate, que je check mes arrières. J'arrive au bureau, des prêts et bourses. C'est pour une demande de paye, j'touille, j't'ai à cause. Ça me dit, ça prendrait un relevé de vos impôts. Mais j'ai comme l'impression que t'as fait une coupe de pièces en trop. T'as bien trop travaillé pour avoir l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai enfin trouvé la meilleure solution. M'en va mettre sur le BS dans pas long. M'en y aller pour la solidarité. Tant qu'à être solidaire, j'suis aussi bien en profiter. La petite madame a l'air morose. Vous savez, c'est pas les petits frères des pauvres. Votre dossier me dit, vous êtes allé à l'école. Nous autres, on n'accepte pas ça, les petites bolles. T'es bien trop éduqué pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. La seule avenue qui me reste, m'en va me lancer dans le commerce. M'en vendre la drogue, m'en remonter la pente. Mais madame la reine n'était pas trop clémente. Ils m'ont passé les menottes. Puis j'ai dit à maudite crotte. Juste avant de réaliser que tous mes problèmes étaient réglés. J'suis logé pour l'hiver, j'suis bien content. Ici, c'est les cigarettes qui valent ton temps. M'en partir un racket ici dedans. Moi, être le boss des bécosses, ça va être dément. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin. Elle a marre.
Vous savez pourquoi faut écouter Canal M? Eh bien, exactement pour la chanson qui vient de passer, parce que ça tourne nulle part ailleurs, et pourtant, c'est vraiment très, très bon. Ça s'appelle L'Argent, c'est signé Sam Harvey, et c'est grâce à mon ami Mathieu Tessier, si moi, personnellement, j'ai pu découvrir ce jeune homme-là, dont je ne demande qu'à écouter un peu plus, d'ailleurs, dans son album. Si on pouvait mettre son album de côté, j'aimerais bien en écouter un petit peu plus. Voilà. Madame Obama a remporté un Grammy Awards pour son livre audio Becoming, qui a été traduit par Devenir. Le livre de Michelle Obama est devenu un véritable succès planétaire. C'est peut-être pour ça que l'ex-première dame des États-Unis a reçu il y a quelques semaines un Grammy Awards pour la version audio de son livre. On pourrait penser que les Grammy Awards... c'était, je pense, la 62e cérémonie. Oui, il me semble que c'est ça. Mais ça ne récompense pas, non, que des musiciens. La preuve, Madame Obama, qui a remporté ce prix dans la catégorie du meilleur album lu. Et ça, ça inclut la poésie, la narration et les livres audio. Rappelons quand même que ce livre-là, Devenir ou Becoming, ça raconte son parcours exceptionnel depuis son enfance dans le South Side de Chicago, en passant par les années au cours desquelles elle a dû concilier sa vie d'avocate et de mère de famille, jusqu'aux 8 années passées à la Maison-Blanche, où elle a su, Madame Obama, imprimer sa marque tout en soutenant, on le sait, son mari, alors qu'il dirigeait les États-Unis pendant des moments difficiles, mais peut-être un petit peu moins difficiles que maintenant, mais enfin, au moins, quoique... Quoique, quand on n'y vit pas, on se tait. Voilà. Alors, dans Devenir, dans la version audio, donc elle lit son livre, on aurait pu penser que l'éditeur fasse appel à un comédien, mais non. Et c'est vrai qu'aussi, par sa voix, elle a su conquérir des centaines de milliers de lecteurs audio, parce que non seulement le livre sur papier s'est vendu comme des petits pains, mais le livre audio aussi, mes amis. Alors, je vous propose d'en écouter un extrait, évidemment c'est en anglais, puisque c'est lu, ce Becoming, cet extrait de Becoming, par Michelle Obama elle-même.
My family lived in the South Shore neighborhood of Chicago, in a tidy brick bungalow that belonged to Robbie and her husband Terry. My parents rented an apartment on the second floor, while Robbie and Terry lived on the first. Robbie was my mother's aunt and had been generous to her over many years, but to me, she was kind of a terror. Prim and serious, she directed the choir at a local church and was also our community's resident piano teacher. She wore sensible heels and kept a pair of reading glasses on a chain around her neck. She had a sly smile, but didn't appreciate sarcasm the way my mother did. I'd sometimes hear her chewing out her students for not having practiced enough, or chewing out their parents for delivering them late to lessons. "Good night," she'd exclaim in the middle of the day, with the same blast of exasperation someone else would say, "Oh, for God's sake." Few, it seemed, could live up to Robbie's standards.
On a envie d'en entendre plus, hein, honnêtement. Très, très bonne lecture de Michelle Obama. On comprend peut-être mieux, ben, quoique je ne sais pas quelles étaient les autres en nomination, mais on comprend peut-être mieux pourquoi elle a gagné un Grammy Awards. Si vous êtes frustré que ce soit en anglais, oui, ça existe également en français. Becoming est devenu Devenir de Michelle Obama, et ça a été lu en France par une comédienne qui s'appelle Marie Bouvier. En voici un extrait.
J'ai fait la connaissance de gens superficiels et hypocrites, mais aussi de personnes, des enseignants, des femmes de militaires et tant d'autres qui m'ont ébloui par la profondeur et la solidité de leur détermination. Et j'ai rencontré des enfants, de très nombreux enfants dans le monde entier, qui m'ont fait mourir de rire, m'ont empli d'espoir et ont réussi pour mon bonheur à oublier mon titre dès que nous avons commencé à retourner ensemble la terre d'un jardin. Depuis mes débuts réticents dans la vie publique, j'ai été considérée comme la femme la plus puissante du monde et dénigrée comme une femme noire en colère. J'ai eu envie de demander à mes détracteurs à quel élément de cette formule ils accordaient le plus de poids. En colère, noire ou femme. Je me suis forcée à sourire quand on m'a photographiée avec des gens qui traitaient mon mari de tous les noms à la télévision, mais n'en tenaient pas moins à avoir un souvenir à poser sur leur cheminée. On m'a rapporté qu'il y avait sur Internet des commentaires nauséabonds me concernant, certains allant même jusqu'à douter que je sois bien une femme et non un homme. Un membre du Congrès américain s'est moqué de mes fesses. J'ai été en colère. Mais le plus souvent, j'ai préféré en rire.
C'est terrible, hein. Oui, c'est sûr qu'elle a dû en voir de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Madame Obama, vous savez que ce n'est pas la seule première dame à avoir reçu un Grammy. Hillary Clinton l'avait précédée en 1987 pour la version d'un autre livre audio qui s'appelait « It Takes a Village ». Et même Barack Obama en a remporté un en 2008 pour « L'audace de l'espoir ». Et vous, chez nos grands voisins à côté, ça fait belle lurette que le livre audio est en vente. Mais ça y est, chez nous, ça pousse. Et on en est bien content, évidemment, chez Vues et Voix. Le prix Livre audio France Culture « Lire dans le noir » récompense chaque année depuis 11 ans les meilleurs livres à écouter parus dans l'année. Et il s'agit, là je vais vous présenter entre autres, parmi tous les livres qui sont en nomination, il y a une catégorie jeunesse, il y a une catégorie roman, il y a une catégorie essai. Dans la catégorie roman, j'ai envie de vous présenter cette production qui vient d'Actes Sud Audio, parce que c'est une maison de production dont j'ai rarement l'occasion de parler. Alors je me dis, pour une fois, eh bien, j'aime autant vous en faire découvrir une autre. qui nous dit sur son site internet pour se présenter « La lecture à haute voix par les auteurs ou par les comédiens fait depuis longtemps partie de la culture d'Actes Sud. Au-delà du livre imprimé, il s'agit de continuer à servir les textes, de les faire découvrir sous une autre forme, celle de l'oralité. » La collection de livres audio d'Actes Sud se propose de rendre accessibles les livres de son catalogue aux lecteurs, de plus en plus nombreux, désireux de faire l'expérience de l'écoute d'une œuvre. La lecture en est confiée à des comédiens confirmés et de renom. Chaque titre de la collection est conçu de façon spécifique par une direction artistique et en étroite collaboration avec les auteurs français. Certains d'ailleurs lisent eux-mêmes leurs textes. Et puis des bonus sont aussi proposés, comme s'il nous arrive également de le faire ici sur les livres audio. Il nous arrive de diffuser des entrevues de l'émission des livres plein les oreilles que j'ai réalisées soit avec des auteurs, soit avec des lecteurs. Il nous arrive de les ajouter à l'audio. Eh bien là-bas aussi, ça se fait. Comme là, par exemple, il y a une entrevue de Laurent Godet, l'auteur de Salina, qui est menée par Guillaume Gallienne, qui lui en est le lecteur. Laurent Godet, Salina, Les Trois Exils, donc, est en nomination. Le résumé de l'histoire, on nous dit sur le site, qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonné aux larmes de sel. Elle fut recueillie par Maman Mbala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique et archaïque de la mort du roi Tsangor, Laurent Godet écrit la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre. Un extrait.
Moi, Malaka, fils de l'énigme, je ne peux pas raconter une enfance entière. Ces longs jours de silence où Salina n'est qu'un corps blotti contre celui de Maman Mbala. Puis ses progrès, ses hésitations, ses tentatives. Ces jours où elle s'élance, babille, marche, puis parle. Je ne peux pas raconter les mois qui passent, les années, et pourtant il le faudrait. Car c'est là qu'elle devient un membre du village. C'est là qu'elle arpente ses terres, apprend à connaître chaque recoin de chaque cahute. Je devrais, car c'est là qu'elle est heureuse. Enfant qui court, joue et n'a rien d'autre devant elle qu'une succession de jours de liberté toujours renouvelée. Alors je dis que le nourrisson devient une enfant, que le corps chétif de la petite chose qui avait été déposée devant les hyènes gagne en force et en vigueur. Maman Bala veille sur elle. Elle lui donne le sein. Salina grandit, marche, écoute, la questionne. Maman Bala lui apprend tout. Le jeu des pierres dans le fond des rivières, le son des saisons, la façon de coiffer les cheveux d'une fille selon les couleurs du ciel. Elle prit les esprits avec elle, à ses côtés. Son odeur dans la couche, généreuse, épaisse, est celle de la bienveillance. Je ne peux pas raconter toutes ces années, pourtant il faudrait, car c'est là qu'elle rencontre Kano, fils de Sisoko Jimba. Il est pour elle un petit garçon avec lequel elle joue, avec lequel elle découvre le monde, Kano qu'elle aime. D'emblée, d'aussi loin qu'elle puisse se souvenir, parce qu'il est à la fois l'autre et elle-même.
Extrait de Salina de Laurent Godet. On va rejoindre d'ici quelques minutes Madame Faline Bobier de KM. En attendant, je vous propose ceci.
Qui colle, colère d'enfant qui tourbillonne et s'évapore. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là.
Jeanne Chéral à Canalem. Le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, autrement dit CAEB, est un service de bibliothèque publique pour les Canadiens incapables de lire les imprimés et régulièrement, qui appartient au CAEB, qui fait partie du CAEB, je reçois Faline Beaubier. Bonjour Faline.
Bonjour Clotilde, ça va?
Oui, très très bien vous-même.
Oui, oui,
bon.
Ça va bien.
Alors, au début, quand j'ai vu les titres des livres que vous vouliez proposer, je me suis dit, oh, elle va nous faire ça dans le policier à fond. Mais c'est pas que ça, loin de là. Hein. Parlez-nous d'abord de Sans capote ni Kalachnikov, qui est un roman, s'il vous plaît.
Ok, très bien. C'est écrit par Blaise Ndala. J'espère que je prononce bien son famille. Le livre a été finaliste pour plusieurs prix littéraires et en fin de compte, c'était le livre gagnant du combat national des livres Radio-Canada l'année dernière.
Oui.
Et le livre, on a comparé un peu son œuvre à celle de, par exemple, Dany Laferrière, dans le sens que Laferrière nous a fait découvrir Haïti, ou quelqu'un comme Kim Thuy, qui nous a fait connaître le Vietnam,
oui.
Alors, c'est pour Ndala, c'est vrai, il nous fait connaître son Congo, son Afrique. Parce que lui, il est né en République démocratique du Congo. Il a quitté le pays en 2003 pour aller en Belgique. Et ensuite, finalement, en 2007, il s'installe au Canada, dans la région de la capitale nationale. Mm-hmm. Donc, dans ce livre, il s'agit de deux ex-soldats. Et le sujet du livre, vraiment, je dirais, c'est l'idée de, par exemple, quand on regarde les travailleurs humanitaires, les gouvernements donateurs ou les médias, souvent l'aide humanitaire est
détournée, vous voulez dire?
Pardon?
Détourné, vous voulez dire?
C'est-à-dire qu'on voit souvent l'aide humanitaire comme quelque chose de bien et d'altruiste.
Oui, oui.
Et ce qu'il essaie de démontrer dans le livre, c'est que ça peut être une sorte de ce qu'il appelle marchandisation de la misère.
Oui, oui,
et
oui.
Les personnes qui en profitent consciemment ou non.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Oui, oui.
Donc, il appelle ça un peu l'égo-charité. Et je pense qu'on voit des exemples de ça un peu partout.
Oui.
C'est pas qu'il rejette l'idée de l'aide humanitaire,
non.
Mais il met en question certains aspects.
Oui, absolument. Puis je pense qu'il le fait bien. Hein. On le sait que malheureusement, il y a encore des zones d'ombre, même dans l'humanitaire, effectivement. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Ok, très bien.
On y va.
On aurait tendance à l'oublier, mais c'est à la faveur de la guerre que cette région, qui abrite pourtant l'un des plus hauts sommets d'Afrique, a fini par devenir presque aussi célèbre que Tora Bora. Le marmot de chez moi connaît ce bout de l'Afghanistan où un barbu, dont je préfère taire le nom, est allé se terrer dans le cul d'une grotte après avoir roulé dans la farine ses copains d'avant. Pareillement, le Bénin du bout du monde peut dorénavant se targuer de savoir sur quelle planète se trouve Kapiti Kisapiang. Qu'à cela ne tienne, j'aime autant la rappeler d'emblée au moment de m'attaquer à ce carnet. Cette contrée, désormais connue de tous, n'a pas toujours été l'une des destinations les plus courues d'Afrique. Sa notoriété au nord comme au sud de la ligne de l'Équateur est postérieure au film de la Canadienne que vous êtes probablement allé voir. Quiconque soutient le contraire est un imposteur, point à la ligne. Ce n'est pas de Kapiti Kisapiang que le touriste blanc allait s'enquérir quand il débarquait chez la bonne dame de l'agence pour choisir son safari africain. Il y a une limite à l'enfumage.
J'aurais pas voulu être à la place du lecteur qui lisait quoi Kapiti Kisapiang ou en tout cas ça devait pas être évident. Alors ça s'appelle, hein, je le rappelle, Faline sans capote ni Kalachnikov par Blaise Dalla. Il était une fois l'inspecteur Chen. Là, on est dans le polar?
Oui, c'est Xu Shaolong, c'est le nom de l'écrivain. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui est chinois, mais qui habite aux États-Unis depuis, je pense, presque une vingtaine d'années. Il est venu aux États-Unis, premièrement, c'était pour écrire un livre sur T.S. Eliot.
Mais excusez-moi, je vous ai perdu.
L'écrivain anglais T.S. Eliot, le poète, parce qu'il est aussi poète. Alors, mais suite aux manifestations à la place Tiananmen en 89, Shaolong a décidé de rester aux États-Unis parce qu'il avait peur de la persécution par le Parti communiste dans son pays natal. Mais depuis ce temps, donc, il a publié 9 romans policiers, la plupart en lieu à Shanghai. Mm-hmm. Et c'est dans les années où il y a eu d'immenses changements dans la République populaire de Chine après la mort de Mao Zedong. Mm-hmm. Et son personnage principal, c'est Chen Shao, c'est l'inspecteur Chen Shao, mm-hmm. qui a été adolescent pendant la révolution culturelle en Chine et qui a vu souffrir son père pendant cette période. Mm. Et dans ce livre, il était une fois l'inspecteur Chen, il revient en arrière pour expliquer comment il est devenu inspecteur de police. Et c'était en faisant des recherches ou c'était une enquête sur la corruption.
OK.
Ouais.
OK. On en écoute un extrait, Faline?
OK, très bien.
On y va.
Pas en chinois, j'espère.
Non.
Au début des années 70, Chen Cao attrapa une mauvaise grippe à l'école primaire. Son père, qualifié de « monstre noir », faisait alors l'objet d'une enquête isolée à l'université où il avait enseigné, et sa mère, affligée par l'ombre qui planait sur leur vie, devait travailler très dur au collège. Personne ne pouvait donc l'emmener à l'hôpital du quartier. Sa mère insista pourtant pour qu'il aille consulter le docteur Zhang, un des médecins les plus réputés de l'établissement. Selon le règlement de l'hôpital, dans la salle d'attente du deuxième étage, les patients pouvaient donner à l'infirmière le nom du docteur qu'ils souhaitaient voir. Le docteur Zhang avait étudié en Europe. Avec ses lunettes aux montures dorées et son éternel cigare, il faisait partie des plus populaires. Sachant combien l'attente serait longue, Cao avait rechigné à y aller. Mais le jeu en valait la chandelle, déclara sa mère en constatant dès le lendemain de sa première visite que sa toux s'améliorait. La deuxième fois, Chen fut étonné de voir un groupe d'inconnus portant des brassards rouges prendre soudain possession du bureau du docteur Zhang et y détruire les récompenses et les prises encadrées dans un vacarme de slogans révolutionnaires. Il s'agissait apparemment d'employés de l'usine numéro 1 de Gand de Shanghai, appartenant à l'équipe de propagande de la pensée de Mao Zedong. Ils avaient été envoyés du jour au lendemain à l'hôpital en réponse au dernier grand commandement de Mao. La classe ouvrière doit être la classe dirigeante dans tous les domaines. À la suite de quoi, tous les intellectuels, dont les médecins, pétris de culture occidentale, furent dénoncés et persécutés.
Oui, et après, oui, on la connaît un peu, hein, cette histoire. Chère Faline, on est en une minute, malheureusement, de devoir raccrocher avec les auditeurs aussi. Je voudrais vous remercier encore une fois pour cette participation. On va se garder Marie Higgins-Clark peut-être pour une prochaine fois. Je vous rassure, j'avais fait un spécial sur le décès de Madame Clark la semaine dernière à l'émission. Alors, voilà.
Je vais l'écouter parce que j'aime beaucoup ses livres.
Hein. Ah oui. Hein? Bon, ouais. Bah écoutez, Faline, merci beaucoup. Merci pour le beau travail que Caeb aussi continue à effectuer. Et puis à une prochaine fois.
Ok, très bien. À la prochaine. Merci, Claudine.
Alors, merci à mes invités Lydia Bouchard et Faline Bobier. Puis merci à Mathieu Tessier. Et merci à vous d'être là. C'était Clotilde Saï qui vous dit à la semaine prochaine.